Vous écoutez l'épisode 4 du syndrome de la page colorée. Je suis Julie Delporte, créatrice du fanzine Nous étions Begin.
Le syndrome de la page colorée. Des rendez-vous sonores avec des artistes de la micro-édition. Très loin d'être en panne d'inspiration.
Saison 1, épisode 4.
Bienvenue pour ce nouvel épisode. Moi, c'est Aude. Toujours illustratrice et toujours très contente de vous retrouver.
Allô, moi c'est Emilien, graphiste à Nantes et content tout pareil.
Sororité. Quel plaisir pour moi d'entendre et de prononcer ce mot. Sororité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le trouve beau ce mot. Il me fait du bien et ouvre en moi un univers de possibilités. Notre épisode va parler de cela aujourd'hui. Des béguines, de l'entraide entre femmes, et aussi de l'inceste, des violences sexuelles. Car oui, le fanzine d'aujourd'hui, il parle de ça aussi.
Celles et ceux qui se lancent dans l'écoute de cette émission embarquent avec nous pour une nouvelle escale en Belgique, au sein du large monde du fanzine. L'épisode précédent faisait un détour par Charleroi, celui-ci passe par Bruxelles. Les invités du jour ne nous ont dit que du bien de cette ville. Comme quoi, Bruxelles, c'est LE compromis entre la France et le Québec. C'est une super ville qui est bien placée. Surtout lorsqu'on a souvent besoin d'aller au nord et au sud de l'Europe pour être sur tous les marchés de la micro-édition. Ce témoignage, c'est celui de l'APA, l'atelier qui a édité et imprimé le fanzine du jour. On va les entendre, et pourtant, c'est pas eux qui ont créé le fanzine. C'est ni plus ni moins que Julie Delporte. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça. Interviewer plusieurs invités dans la même émission. Mais l'histoire de cette micro-édition le justifie totalement.
Eh oui, notre épisode va à Bruxelles, mais aussi à Montréal. Là où vit Julie Delporte et où j'ai pu l'interviewer. Même si elle vit depuis une dizaine d'années sur le sol québécois, elle entretient de nombreux liens avec la Belgique. Déjà, elle a rencontré de nombreux amis là-bas. Un réseau établi dans le monde de la bande dessinée. Elle m'a aussi parlé d'un stage qu'elle a fait à l'employé du mois, quand elle ne dessinait pas encore. Également des résidences, à l'atelier No Rest. Et avec le calque, dans un cadre d'échange Québec-Belgique. Bref, elle me disait que la scène BD là-bas est vivante et intéressante. Et qu'elle a vraiment hâte d'y retourner.
Notre autre invité est donc un monstre à deux têtes, Rebecca et Quentin. Ces deux graphistes de formation se sont rencontrés pendant un stage dans l'atelier de sérigraphie marseillais Le Dernier Cri. Très vite, ils montent leur propre atelier, le font naître dans une cave, le promènent à Montréal pendant 2 ans et demi, pour finir par l'implanter à Bruxelles. Depuis, l'atelier vit de contrats de graphisme, mais offre également un programme de résidence artistique, financé par des aides publiques. Ça, c'était pour leur fiche Wikipédia. Sinon, un peu plus le fun, j'ai l'explication de leur nom d'atelier. Le graphisme et l'impression, c'est un peu l'APA, le leur, pour amener le lecteur à ouvrir le livre. Écoutez donc leur jolie voix quand ils parlent de leur couleur préférée.
Moi, je dirais le noir, mais avec un peu de paillettes dedans. Mais juste un peu, tu vois que ça brille comme il faut, là. Mais en sérigraphie, hein, parce que je suis pas bloqué sur le noir.
Oh, s'il te plaît, t'es habillé de tête aux pieds au noir, et même les chaussettes sont noires.
C'est pour le contraste, j'aime bien le contraste, c'est tout.
J'aime le rouge fluo.
Maintenant, c'est le passage où vous devez vous faire une image mentale du fanzine. Ouvrez bien les iris de vos neurones, là. Un petit carnet bien épais. Fermé, on voit juste le titre et un dessin de tête avec plein de cheveux entremêlés de fleurs. Les couleurs sont franches, on dirait vraiment que c'est fait au feutre. Oh, la couverture est en fait un grand poster plié. Les pages sont très épaisses. À vue d'œil, il y a autant de pages avec seulement des illustrations que de pages avec seulement du texte. Plutôt des phrases. En fait, un poème. Notre première question cherchait à savoir à qui était destiné ce fanzine.
En fait, c'est un livre de moi aussi. Je pense que ça m'a beaucoup touchée. Et puis, c'est sûr que je crois que c'est un livre que j'adresse à toutes les survivantes d'agression. C'est sûr que je me tiens. En fait, c'est la première fois là. Tu me poses cette question. C'est la première fois que je me demande vraiment. Mais je crois que le livre, il est là pour dire, bah, en fait, oui, c'est la merde. Mais oui, tu peux faire quelque chose pour aller mieux. Tu peux. Guérir, c'est un grand mot. Hein. Genre, on pourrait écrire des thèses sur est-ce qu'il est possible d'en guérir ou pas, mais tu peux te soigner.
Dans les dessins de Julie, il y a souvent un rapport avec la nature. Elle me disait qu'elle aimait bien dessiner les animaux. C'est d'ailleurs sa présentation à la fin de ce livre. Julie Delporte aime les animaux, les plantes et parfois les humains. J'ai aussi remarqué que dans ce livre aussi, il y a un lien continu avec l'univers des plantes, des fleurs. Elles sont dessinées à toutes les pages. Je lui ai donc demandé pourquoi.
L'idée graphique du livre, c'est qu'elles se transforment en plantes, en fait. Ces femmes-là, dans le groupe, ou qu'elles découvrent qu'elles se sont transformées en plantes à un moment de leur vie. C'est une métaphore que j'ai faite sans vraiment y penser. Je pense que c'est juste un choix graphique. Après, qu'est-ce que l'inconscient derrière ce choix graphique voulait dire ? C'est sûr que dans mon autre livre que j'ai sorti récemment, « Décroissance sexuelle », il y a une phrase qui dit je suis une femme, un homme, une fougère, un oiseau. » Donc, il y a une connexion à l'univers, connexion aux animaux, aux végétaux, qui est importante pour moi, puis que je traduis souvent par le dessin. Je peux pas vraiment le traduire autrement. Peut-être c'est un amour de ces femmes-là qui étaient dans mon groupe, que j'appelle les béguines, qui ressemblent un peu... C'est peut-être le care, tu sais, le soin. J'ai envie de respecter, d'aimer, d'observer, de rendre hommage aux fleurs, autant que j'ai envie de rendre hommage... aux humains et surtout aux humains qui le méritent. Et peut-être les plantes, je pense que j'avais écrit là-dessus, attends, je vais essayer de retrouver ça. Il y avait une question de l'adaptation des plantes. Ah, c'est ça. J'avais écrit un texte dans Moebius où il y a cette idée que la plante, elle s'adapte. La plante, elle est tout le temps blessée, en fait. Pas assez de lumière ou quoi que ce soit, ou même dehors, tu sais, la branche, paf, on l'accroche, elle perd un bras, tu sais. Mais elle s'adapte toujours, des fois elle meurt, mais tu sais, elle a beau avoir une branche, un bras coupé, ben, elle va pousser dans l'autre sens, elle va pousser vers la lumière. Puis c'est comme cette question de ça, comment on pousse après un trauma ou un événement tel une agression, même si le trauma n'est pas clair forcément, mais ben, y a toujours une sorte de trauma quand même, c'est... comment on va s'adapter en fait à ce qui s'est passé, et puis est-ce qu'on peut s'adapter, comment ça nous transforme.
Mais en fait, pour elle, quelle était la différence avec ses autres créations et ses autres livres?
C'est la pratique de l'impression, là je pense que la sérigraphie a fait que j'ai dû vraiment travailler de manière différente, en couches, ce qui est une manière de dessiner que normalement j'aborde pas. J'avais déjà fait de la sérigraphie où je dessinais mon dessin comme d'habitude avec tous mes crayons, toutes mes couleurs mélangées. Puis après, je travaillais un peu pour les séparer dans Photoshop. Celui-là, c'est vraiment... il a fallu que je dessine séparément les couleurs. Et puis j'ai dessiné au feutre, en fait, ce que j'avais jamais fait. C'était toujours au crayon d'habitude pour moi. Donc pour ça, il est différent. Et il est différent... C'est peut-être la question de mon rapport au fanzine aussi, parce que ça a été très libre. Alors autant j'avais les éditeurs de l'APA avec moi, donc il y a des éditeurs, mais j'ai jamais eu autant de liberté dans la production matérielle d'un livre. On a choisi le papier ensemble, les couleurs ensemble, le format, cette couverture qui se déplie... C'est comme si j'avais accès à tout de A à Z jusqu'à l'imprimeur, parce que même si l'éditeur, il te laisse choisir des choses parfois, ça sort jamais comme on veut à l'impression. Là, je l'ai imprimé avec eux, c'était juste à quelques micro-détails près, c'était exactement ce qu'on avait en tête. Et pour ça, dans le processus d'édition du livre, c'était précieux et il n'y avait pas ça dans mes autres livres.
Lorsque je vous expliquais dans l'intro que le zine du jour justifiait d'interviewer deux fois plus de monde que d'habitude, c'est parce que ce projet est le fruit d'une configuration qu'on trouve trop rarement. Julie a travaillé avec l'APA, cet atelier bruxellois qu'elle surnomme « mes éditeurs imprimeurs ».
C'est vrai que c'est quand même un sujet compliqué, puis je me suis toujours sentie bien avec eux d'aborder ce sujet des agressions sexuelles. C'est sûr que pour moi, là, c'était le paradis parce que, tu sais, il y a juste le fait qu'on aurait aimé qu'il y ait du fluo. Là, j'ai une version avec du fluo ici. Et puis, au moment de l'imprimer, on a mis pas la bonne quantité d'orange ou je sais pas quoi. Et du coup, le reste des exemplaires sont orange, pas fluo. C'est le seul truc que j'avais pas vu comme ça, puis que j'aurais aimé que ça soit fluo, mais sinon, là, quand on fait un livre, normalement, mais ça sort jamais comme on veut, les couleurs sont pas comme ça, oh, on avait choisi un papier, mais ah, c'est pas comme ça que je le voyais, tu sais, il y a plein d'étapes entre l'éditeur, c'est envoyé chez un imprimeur industriel, là, on fait tout, on corrige sur place s'il y a des trucs... C'est ça qui est magique avec l'APA, là. Le livre est vraiment comme je le voulais, là. Il y a comme un truc de... Je veux dire, ils l'ont fait, ils ont imprimé avec moi, etc. Mais c'est quand même... Je sentais pas la volonté de mettre leurs pattes, de mettre leur logo. C'était mon livre à moi, là. Ils étaient vraiment... Je pense que si j'avais voulu faire un truc qui était pas beau, ils m'auraient dit, bon, tu devrais plutôt le faire comme ça. Mais je sentais qu'ils étaient comme, oui, ok. Puis il y avait cet amour de l'impression avec les machines et de pouvoir y participer. C'était quand même extraordinaire de voir le travail que c'était aussi. Là, on a imprimé une semaine non-stop avec Quentin. Là, c'est toute une... comment on dit, dedication de leur part. C'est toute une... Ils sont vraiment dédiés à ça.
On offre aux artistes la possibilité de créer leur livre en entier, de A à Z. De A à Z, non, parce que les dessins sont déjà faits. On fait un travail éditorial d'abord. Puis une fois que tout est dessiné, on va l'imprimer ensemble pendant une courte résidence de maximum 2 semaines. Et ensuite, on sortira le projet dans la foulée. Donc, on fait toujours un lancement en même temps. Donc, comme le projet de Julie, c'est... des projets qui, en dehors de la micro-édition, n'auraient pas forcément existé. Et ça, c'est super. C'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. C'est que, parce que c'est un nombre de tirages limité, parce qu'il n'y aura pas un public extrêmement large, ou large tout court, hein, du coup, les artistes, ils se sentent un peu plus libres. Et même s'ils sont un petit peu connus pour un certain travail, bah là, ils vont expérimenter un autre truc qu'ils n'auraient pas fait d'habitude. Ils n'auraient pas proposé à une grande maison d'édition. Et nous, on a le privilège, du coup, parce qu'on tire en petite quantité, de montrer un aspect, ou en tout cas de libérer un peu par certains auteurs, quoi.
Je crois qu'on a vraiment appris à connaître Julie pendant qu'elle faisait une résidence à Bruxelles. Via une connexion officielle qui existe dans un programme de résidence d'échange entre Montréal et Bruxelles.
C'est une commission fédérale, donc étatique, quoi, qui soutient des projets de BD beaucoup, et puis en fait qui soutiennent surtout la francophonie, quoi. C'est leur rôle. Et ils avaient donc reçu Julie en résidence, ouais, c'est ça.
C'est là qu'on a commencé à parler de faire un projet ensemble.
Quand Quand Aude et moi, on a dû choisir un fanzine pour ce quatrième épisode, on avait vraiment envie d'en savoir plus sur celui de Julie. Mais quand on a regardé à l'intérieur, on a eu un doute. La question à 1 milliard, celle qui fait s'arracher les cheveux aux courageuses et courageux qui étudient la scène de la micro-édition, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un fanzine ? Ce qu'on a vu à l'intérieur du livre, c'est que le colophon indiquait 300 copies. Comparé au livre de la FNAC ou d'Archambault, choisissez vous-même, c'est ridicule 300 exemplaires. Mais comparé à d'autres micro-éditeurs, c'est plus si micro que ça, 300 exemplaires. Julie nous a donné sa vision des faits. Oui, ça pourrait bien être un fanzine, vu le degré de liberté pris dans le projet et vu tout le travail d'orfèvre derrière la fabrication du livre. Quant à l'APA...
Mais je pense qu'on ne sait pas trop où on se positionne. On est souvent dans les salons de micro-édition. On est un peu entre les deux extrêmes du milieu, si on peut dire. On n'est pas vraiment un éditeur parce qu'on ne fait que 300 exemplaires et on fait ça tout à la main. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment des fanzines. Donc, on ne sait pas trop où se placer.
Ouais, moi, je n'utilise pas personnellement le terme de fanzine, mais quel terme on pourrait utiliser, ça c'est toujours un peu...
lorsqu'on fait des salons de livres d'artistes, on n'est pas à notre place non plus parce que les gens sont un peu péteux. Bon, après, c'est pas comme si on était les seuls à faire ce qu'on fait, il y a plein de gens qui le font, mais c'est... voilà, je sais pas, on est un peu entre... c'est de la micro-édition, je pense, plus que... Peut-être de la micro-micro-édition.
Ouais. Maintenant, allons un peu plus vers ce que ce livre veut nous dire. C'est quoi ce livre ? Qu'est-ce qui se cache derrière Nous étions Béguines ?
C'est plus un livre de souvenirs, d'hommages et pour aider les autres. Je veux dire, il n'y a aucune clé. Je veux dire, c'est un poème. Il n'y a aucune clé dans le livre qui dit « c'est comme ça que tu vas t'en sortir ». Mais c'est plus « je tends la main pour dire qu'il y a des choses, des moyens de... » Il y a des gens aussi qui ont vécu la même chose. Il y a même des thérapies de groupe qui existent. Je ne le savais pas, tu sais, avant qu'on me le dise. Puis s'il n'en existe pas, ben, faut les créer, là. Ce qui se passe dans un groupe, dans la thérapie de groupe, là, c'est fou. Moi, j'avais toujours vu des thérapeutes individuels. Et c'est un peu la manière de faire normale, contemporaine, occidentale, etc. Mais dans un groupe, soudain, ce que moi, j'avais considéré comme mon problème individuel, le problème de Julie, qui avait été agressée par quelqu'un dans sa famille... là, ça devient un problème de société parce que on est toutes présentes, on a toutes vécu la même chose, et c'est comme si on t'enlevait un peu le poids en te disant ben non, c'est pas juste toi, c'est comme la société marche comme ça, et c'est vrai. C'est les chiffres de l'inceste là, c'est 3 enfants par classe en France, c'est ça. Donc c'est pas le problème de Julie, c'est le problème de notre société, puis il serait temps qu'on le regarde. Et dans le groupe, la structure du groupe permet de faire ça. Et je pense que ça, c'est valable pour des problèmes d'agression sexuelle, mais c'est sûrement valable pour d'autres problèmes. Mettons quelqu'un qui fait un burn-out au travail... Bah, est-ce que c'est son problème ou est-ce que c'est le problème de l'organisation contemporaine du travail ou de la société dans laquelle il travaille ? On règle notre manière de faire, c'est qu'on va en thérapie individuelle pour régler des problèmes de société. Ça peut pas fonctionner seulement comme ça. Là, je dis pas de pas aller en thérapie individuelle. Des fois, on n'a pas le choix, puis c'est ça qu'il y a. Il faut prendre ça. Mais ça suffit pas pour changer les choses.
Je trouve que c'est vraiment intéressant, effectivement, de penser en termes d'un problème de société et de ne plus voir ça comme des problèmes individuels, mais structurels. De penser en termes de collectif, même si toutes les histoires sont différentes et uniques, mais malheureusement, elles ont aussi toutes des points communs. Le collectif, justement, il vient de là le parallèle avec le titre des Béguines, ces communautés de femmes qui vivaient entre elles au Moyen-Âge. J'ai demandé à Julie de nous en parler et de nous expliquer qui elles étaient.
Je suis pas une grosse spécialiste historique, mais moi, la première introduction que j'ai eue aux béguines, c'est en visitant des béguinages en Belgique. C'est des endroits où les béguines habitaient. Puis les petites maisons individuelles sont alignées les unes à côté des autres avec leurs petits jardins individuels. Et je ne sais pas, l'endroit m'a vraiment séduit. J'étais comme, ah, c'était une communauté de femmes qui vivaient ensemble. J'étais comme, mon Dieu, je voudrais habiter là, je veux habiter avec elles. Puis après, j'ai commencé à comprendre un peu plus qui elles étaient. J'ai lu ce livre que je conseille, qui s'appelle « La nuit des béguines » de Alice Kinner. Et c'est dans un béguinage à Paris que ça se passe. Et là, on comprend vraiment mieux qui elles étaient. En fait, c'était une manière... là, j'ai pas les dates, mais c'était comme Moyen-Âge pour les femmes de pas se marier, mais de pas rentrer au couvent. Ça, c'était un peu l'alternative, les béguines, qui avaient été fondées sûrement par des femmes qui voulaient absolument échapper au mariage. Donc ça a été fondé quand même par des femmes bourgeoises, parce qu'elles pouvaient donc avoir de l'argent pour vivre comme ça, mais aussi, à l'époque, c'était la seule manière de garder son argent. Elles avaient eu le droit de garder leur argent, parce que sinon, tout allait au mari, en fait. Donc elles avaient trouvé ce compromis-là en se faisant passer vraiment... C'est là que je ne sais pas exactement c'est quoi la vérité, mais on a souvent dit que c'était des communautés religieuses. Cela dit, c'est parce qu'après, les béguinages ont été repris par des bénédictines qui étaient vraiment des religieuses. Et peut-être que l'histoire, on les a présentées comme des religieuses, mais leur but, c'était plutôt de vivre sans se marier. Et j'ai l'impression que la religion n'était pas leur but premier. Puis à l'époque, c'est vrai que tout le monde était religieux, mais c'est sûr que pour qu'on leur permette de vivre de cette manière-là, elles avaient fait vœu de piété, en fait. Elles vivaient de manière très pieuse. Et en effet, il y avait l'église au centre de leur communauté, et elles allaient à la messe, etc. Mais dans le livre de Alice Kinner, on voit bien qu'elles étaient institutrices, elles travaillaient dans l'artisanat, le tissage, etc. En fait, c'était des femmes indépendantes. Donc moi, je me dis, à l'époque, t'es au Moyen-Âge et tout, tu veux être indépendante, soit t'as clairement pas envie de te marier parce que les hommes t'intéressent pas, mettons, t'es lesbienne. Ou soit, t'as été bien abusée par quelqu'un et ça suffit, tu veux plus faire l'amour, c'est terminé pour toi. Donc, les béguines, youhou. Ou alors, tu es clairement indépendante et il n'y a pas moyen que tu donnes ton argent et que tu dises oui-oui à tous les hommes de ta vie. Ok, les béguines. Donc voilà, c'est ça pour moi, les béguines. Ouais.
Nous étions béguines à maintenant 3 ans. J'ai demandé à Julie si du chemin avait été parcouru et comment elle se sentait vis-à-vis de ce livre.
Ouais, j'ai vraiment eu l'impression... pas en lisant ce livre-là, mais j'ai relu récemment pour mon prochain livre tous mes carnets des dernières années, dont les années où j'ai écrit « Nous étions béguines », etc. Et puis, je vois tellement le chemin parcouru. Je suis vraiment plus légère. On parle de choses personnelles, pas du livre, mais je me souviens que j'ai commencé cette thérapie de groupe en me disant « on peut pas guérir de ça, on peut pas guérir d'un traumatisme d'enfance aussi fort, c'est comme l'inceste, est-ce qu'on peut en guérir, franchement ?» Récemment, j'ai écouté le super beau podcast « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudowsky sur l'inceste. Puis j'avais l'impression de mettre les derniers morceaux d'un puzzle qui était mon histoire. Puis oui, je suis marquée à vie, oui, ça change la façon d'être au monde, mais je me sens guérie parce que je me sens que mon histoire m'appartient, que j'ai fait tout ce que moi j'avais besoin de faire par rapport à ça. Puis que je suis solide dans la compréhension des événements que j'avais besoin de comprendre.
Et maintenant, retour sur l'autrice d'aujourd'hui qui nous en dit un peu plus sur son parcours.
On reconnaît beaucoup mon travail au crayon de couleur parce que depuis, ça fait vraiment plusieurs années là, que je travaille beaucoup au crayon de couleur. Notamment, j'ai fait plusieurs livres aux éditions Pao Pao, des petites éditions, elles ont grossi là maintenant, mais des éditions québécoises qui sont distribuées en France aussi. Dont les plus connus, c'est Moi aussi, je voulais l'emporter et Journal, qui sont réalisés au crayon de couleur, en fait, qui sont toujours avec une approche autobiographique, en tout cas ces deux-là. J'ai d'autres travaux qui sont plus dans la fiction, mais je travaille quand même beaucoup autour de l'autobiographie, pas vraiment pour parler de moi, mais plus pour faire résonner chez les autres un « nous ». Ça, c'est beaucoup comment je vois ma démarche d'écrire au jeu. C'est comme un peu ce qui aime Annie Arnaud, là, c'est l'idée du jeu sociologique, en fait, pour créer un lien entre nous qui écrivons et les personnes qui vont lire. Mon tout premier livre s'appelait « Encore ça », puis ça parlait d'une expérience traumatique d'enfance liée à la sexualité. Et je pense qu'à ce moment-là, dans le trauma, il y a cette idée qu'on se dissocie la tête, la raison, puis le corps, qui sont les sentiments plus. Puis j'ai grandi en étant quelqu'un de très cérébral, quelqu'un de très sérieuse, très appliqué, très intellectuel, vraiment pas beaucoup dans mon corps. J'ai complètement en fait dissocié de mon corps pendant longtemps. Et raconter ces histoires, pour moi, la maîtrise de la langue, d'écrire, c'était la raison justement, c'est cet intellectuel-là. Et quand j'ai eu besoin de raconter des histoires, je voulais aller rechercher mon corps, puis les images sont plus pour moi dans le domaine abstrait du corps, et c'était une manière de rassocier. Voilà, j'ai vraiment envie de rassocier des choses qui normalement sont dissociées plus dans mon cerveau. Ça, c'est ma propre théorie de comment ça marche, pourquoi j'ai besoin de travailler avec du texte et des images.
Voilà. À vous de commencer ou de terminer votre collecte de fanzines, soit en passant par le bien beau site de l'APA, soit en retrouvant Rebecca et Quentin sur leur stand dans les salons de micro-édition. Eux-mêmes jubilaient de voir qu'ils s'organisaient un salon chaque week-end à travers toute l'Europe. On est aussi impatients qu'eux que ça recommence. Si des créatives et créatifs nous écoutent, allez toquer chez l'APA pour en savoir plus sur leur atelier et leur programme de résidence. Spoil alert, ils ont en plus du matos de sérigraphie une rainureuse vieille de plus de 100 ans, une grosse agrafeuse à pédales et une philosophie de vie bien bien cool.
C'est du seconde main, tout est seconde main. Après c'est des très bonnes machines qu'il faut savoir entretenir, mais c'est ce qu'on pouvait se payer quoi, quand on est arrivé en Belgique. Parce que vendre des livres de micro-édition, c'est sûr que ça fait pas... Ça fait pas de nous des gens riches, mais ça fait de nous des gens heureux, en tout cas. Donc...
Pas de tirage au sort du fanzine en question dans l'épisode cette fois, mais tirage au sort quand même. À gagner, ça ne sera pas « Nous étions Begin », les 300 exemplaires se sont déjà dispersés dans la nature, mais un autre fanzine de Julie Delporte, intitulé « Ilma », avec la petite dédicace, comme d'hab. Nous allons envoyer dans l'infolettre le lien pour s'inscrire à notre petite loterie. Alors assurez-vous d'être bien sur la liste en vous abonnant tout de suite.
Et merci encore à Gablé pour la musique. Pour celles et ceux intéressés, je souligne vraiment le fait qu'il faut écouter le podcast dont Julie parle à un moment dans l'émission. Il s'agit de « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudowski, qu'on peut retrouver sur la plateforme Louis Média. Ça vaut vraiment le coup d'y mettre une oreille attentive. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et à bientôt. Bye bye.
Ciao.